France Inter.
Aujourd'hui, l'Arzac, histoire d'une lutte emblématique, racontée par...
Philippe Artière, historien au CNRS, au sein de l'IRIS, à l'École des hautes études en sciences sociales.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je vous salue, paysans du Larzac, et je salue votre lutte pour la justice, la liberté et pour la paix, la plus belle lutte de notre XXe siècle. Ce combat dure depuis 7 ans. Vous avez voulu qu'il fût sans violence. Si la guerre avait été violente, vous risquiez de perdre. Le gouvernement et son armée étaient beaucoup trop forts pour vous. Vous avez choisi de n'avoir d'autre arme que la volonté de paix. Vous n'avez pas perdu. Peut-être gagnerez-vous, je le souhaite. Des centaines de milliers de femmes et d'hommes le souhaitent avec moi. On vous a dit antimilitariste. Vous ne l'êtes pas, vous croyez à la nécessité d'une défense de la France, mais vous ne trouvez pas bon que l'armée s'installe au beau milieu du pays et loin des frontières pour créer sur des milliers d'hectares une zone d'expérimentation pour les armes nouvelles. Vous ne jugez pas bon non plus que le gouvernement loue ce terrain habité à des armées d'autres pays pour qu'elles viennent s'y exercer. Vous avez raison, il faut la sottise et le cynisme de nos dirigeants pour faire du Larzac en pleine paix, l'étrange lieu d'une guerre mondiale préventive. Continuez votre effort et que beaucoup de Français et de citoyens d'autres nations s'y associent. Il y en a déjà un bon nombre dans 35 villes de France et en de nombreuses villes à l'étranger, dont Rome. Je suis trop vieux pour pouvoir vous apporter une aide considérable, mais je vous dis de tout mon cœur, bonne chance. Jean-Paul Sartre, 28 octobre 1978. Bonjour Philippe Artière.
Bonjour.
Cette lettre, Jean-Paul Sartre l'a écrite 2 ans avant sa mort. Qu'est-ce qu'elle vous inspire dans cette histoire du Larzac ?
Alors elle m'inspire d'abord une première chose, c'est que c'est, je crois, la seule prise de parole d'un intellectuel sur la cause du Larzac.
Il n'y a pas eu d'engagement des intellectuels ?
Il n'y a pas d'engagement d'intellectuels comme il y en a eu autour de la mine, autour d'un certain nombre d'autres lieux, d'autres grandes luttes.
Notre-Dame-des-Landes.
Notre-Dame-des-Landes, plus récemment, mais même dans les années 70, on a l'habitude d'avoir des intellectuels. Et là, pour plein de raisons, et notamment l'éloignement, et aussi... ce léger décalage que Sartre explique bien. Il faut imaginer que Sartre est allé voir Bader en prison. Quelqu'un qui a choisi la lutte armée, qui l'a un peu défendu. Et là, il arrive et il justifie, met en avant le caractère non pas antimilitariste, mais non violent.
Ouais.
Qui va être l'image du Larzac, qui va être l'image qui va perdurer. Aussi parce que les non-violents se sont installés sur le Larzac à partir des années 75. Hein, et ils vont vraiment développer là un centre, un pôle qui va attirer beaucoup de gens.
Vous parlez de l'éloignement. C'est pas tellement un argument, je trouve, parce que le Larzac s'est souvent invité à Paris quand même, et souvent monté à la capitale.
Ah oui, mais à quel prix ?
Ouais.
Il y en a encore quelques-uns sur le plateau qui pourraient en parler. Aller époque, en 1970, hein, puisque ça commence en 70-71, et la première marche, c'est 73, puis 78, puis 80, mais aller là-bas, c'est avant la 75. Nous, on a l'habitude, hein, maintenant, les gens prennent leur voiture, ils quittent Paris, et ils vont à Barcelone, et puis... grand travelling sur le Larzac, on a l'impression qu'on est dans le désert français, c'est formidable, on ne s'arrête pas. C'est ce ruban-là, on passe sur le viaduc de Millau. À l'époque, la Nationale 9, pour enfin l'avoir beaucoup pratiquée, c'est une route très longue, très sinueuse. Il faut grimper, c'est avant le désenclavement quand même du Massif central cette fameuse méridienne. Pour arriver là, puisqu'on est au sud du Massif central. Donc, du nord, c'est très loin. Et de Montpellier, qui est la ville la plus proche, c'est loin aussi, d'une certaine manière, parce qu'il y a cette... Vallée de l'Hérault, et puis surtout cette montée hein, sur le Causse qui fait obstacle. C'est un peu le Larzac. J'essaye de le dire, un lieu frontière. Ça fait frontière entre le nord et le sud, ce qui est très paradoxal, puisqu'on est quand même...
Dans le sud, hein.
Oui.
On est plutôt dans le sud.
On est beaucoup dans le sud, quand même.
Pourquoi Philippe Artière, après l'indépendance de l'Algérie, l'armée regarde précisément vers le Larzac pour y étendre son camp ?
Alors, la guerre d'Algérie joue un rôle absolument essentiel dans l'histoire du Larzac, et ça vient effectivement de l'armée, parce que en perdant l'Algérie, l'armée a perdu ses zones de manœuvre arides. L'essentiel des zones de l'armée française et de l'armée de terre, oui, qu'on a entendu tout à l'heure sur cette même chaîne, sont plutôt dans la Marne, et donc sur des terrains gras. Et là, on cherche non seulement, et Sartre le souligne, donc plutôt des terrain plus grand,
vaste, hein,
au même
hein,
moment il y a
plus vaste,
ouais. Il y a le camp Juers. Et ça ne fait l'objet d'aucune lutte. Et puis le Larzac. Et puis la deuxième raison, c'est de fait que les terrains, enfin le terrain d'opération, c'est un terrain méditerranéen.
Donc plus sec. Hein.
Plus sec.
On n'est pas dans la boue là.
Voilà.
Hein.
Là, on en a tous, ou beaucoup d'entre nous peut-être en ont fait l'expérience. C'est à la fois un terrain qui est très chaud, mais aussi très froid, caillasse, la caillasse, pas beaucoup de végétation, donc on voit loin.
Ouais. Donc c'est idéal pour faire de grandes manœuvres, en tout cas pour les préparer, hein.
Oui, c'est idéal, c'est d'autant plus, enfin, je dirais encore aujourd'hui idéal, puisque aujourd'hui la Légion étrangère s'est réinstallée sur le Larzac, ce qu'on oublie, hein.
Ouais.
Elle s'est réinstallée assez massivement.
Qu'est-ce qui se passe alors en octobre 1970 exactement ? Il y a une annonce qui est faite ?
Alors, c'est pas tout à fait, c'est une annonce, mais une annonce qui est faite localement, lors d'un comité de l'UDR,
ouais,
à la cavalerie. La cavalerie, c'est un des villages du Larzac. C'est le village le plus proche du petit camp militaire qu'il y avait, qui est un camp militaire qui a toute une histoire et qui est ouvert au début du XXe siècle. D'abord pour les réservistes. Donc, en gros, c'est les paysans de la campagne qui montent faire leur service pendant les 2 mois, comme réservistes. Hein. Cette armée de réserve qu'on a un peu oubliée, mais enfin, elle existe.
Ouais.
Et ce qui se passe là, c'est qu'il y a l'annonce que, en fait, une partie du Larzac va être prise pour étendre le terrain du camp.
Donc on va passer, concrètement, je crois que c'est 3500 hectares,
ouais,
camp militaire, à 17000 hectares.
C'est ça.
Hein.
Donc il y a à peu près 8000 hectares qui doivent être... doivent en faire l'acquisition. Le ministère des armées doit en faire l'acquisition. Et ces 8000 hectares, ils appartiennent alors à différentes personnes. À la fois à des notables Miavois qui ont des fermages, et puis à des jeunes paysans. Et c'est là que la guerre d'Algérie revient, d'une certaine manière, puisque ces jeunes paysans qui se sont installés dans les années 65, à peu près, au milieu des années 60, eux, ils ont vécu la recherche de terres pour être agriculteur et notamment pour faire de l'élevage juste après l'arrivée des rapatriés. L'arrivée des rapatriés, on l'oublie, entre 59 et 62, c'est 1 million de personnes qui arrivent en France et notamment beaucoup d'agriculteurs. Et donc toutes les terres justement de l'Hérault dont on parlait, du Languedoc, sont plutôt réservées, octroyées, louées, vendues à ces rapatriés, avec tout un dispositif d'aide financière énorme. Et ces rapatriés, en fait, ils vont priver de terre des jeunes paysans qui sortent de l'école de Rambouillet, par exemple, et qui donc vont monter sur le Larzac et occuper la partie la plus au nord, et la partie la plus pauvre, où il y a un certain nombre d'exploitations qui ne sont pas où il n'y a rien, qui sont à l'abandon et qui sont plutôt des exploitations pauvres.
Et donc la lutte va commencer à ce moment-là avec l'annonce de l'extension donc, du camp militaire. On va écouter 2 ans plus tard, en 1972, Michel Debré, qui est alors ministre d'État chargé de la Défense nationale.
Derrière toutes les critiques que vous avez entendues ou que vous entendrez encore, se cache en réalité, une fois de plus, comme à bien d'autres occasions, cette thèse démentie par les faits, démentie par la raison, comme quoi les Français pourraient être libres, la France pourrait être un pays gardien de la liberté de ses citoyens sans avoir de défense nationale. Et cette extension du camp du Larzac, qui sera une extension modérée, non seulement sera très utile à la défense nationale, mais apportera à la région du Larzac et à la région de Millau un apport économique positif.
Millau, évidemment.
C'est Millau et pardon.
Et Philippe Artière, dites-moi.
Non, et ce qui est très intéressant, ce n'est pas dans l'extrait, mais la grande maladresse de Debré, c'est d'avoir dit ce terrain, ce causse, ce plateau, c'est désertique, c'est pauvre, ouais. C'est habité par des vieux schnocks, des vieux paysans, et donc... Et bon, on n'en a pas besoin pour l'agriculture française.
Ouais, donc il y a beaucoup de mépris et de maladresse dans les propos. Oui. Donc évidemment, ça va être un choc. Un an avant d'ailleurs cette intervention de Michel Debré, il y a la création de l'association de sauvegarde du Larzac et de son environnement. Ça, c'est un outil qui a été absolument décisif justement pour structurer les paysans et fabriquer, on pourrait dire, presque une histoire commune là, autour de cette lutte.
Oui, c'est peut-être une des spécificités d'ailleurs de cette lutte, et le fait qu'il n'y ait pas d'intellectuels qui soient venus, c'est que il y a une structuration par les paysans eux-mêmes.
In situ,
qui ne sont pas des paysans comme un certain nombre de paysans bretons au même moment quand les Mao vont en Bretagne faire une grande marche. Mm-hmm. Ça marche. Les Mao montent sur le Causse en 70-71 et ça marche pas, ça rentre pas. Ça ne se rencontre pas. Ces mondes-là ne se rencontrent pas. Ils se rencontreront plus tard sous d'autres formes. Mais ces paysans, ils se connaissent. Il faut comprendre quand même qu'en 70, le Causse, même s'il est à 100 km de Montpellier et à 25 km de Millau, c'est quand même des lieux isolés, et isolés l'hiver en particulier. Ouais. Et cette association, les gens se retrouvent le soir. C'est Guitarlier qui, lui, vient, est un nouvel arrivant, mais c'est aussi... d'anciens paysans locaux, et puis aussi des notables. Ce qu'on a du mal à imaginer.
Mais qui sont concernés aussi.
Ils sont concernés parce que, en particulier, je pense à Pierre Laure, PDG d'une fromagerie. Fromagerie Roquefort.
Roquefort, parce que ça va jouer un rôle très important aussi dans la lutte, le Roquefort.
Ça joue un double rôle, en fait. Ça joue un rôle à la fois de visibilité, parce que le Roquefort, tout le monde connaît. Et puis ça joue un autre rôle, c'est qu'il y a des enjeux économiques.
On va écouter la voix d'Henri Ramade, qui est lui président de l'association de sauvegarde du Larzac, et c'est en novembre 1971, on est vraiment au cœur de la lutte.
Si cette manifestation a lieu, c'est qu'elle a été provoquée par le manque de concertation préalable.
Donc ce que vous souhaitez dans l'immédiat, c'est d'être associé à toute décision qui sera prise concernant le camp du Larzac.
Absolument. Et je ne cesse de penser qu'il aurait fallu commencer par là. Car on ne peut pas disposer d'un terrain comme le Larzac, qui est en pleine expansion économique, touristique, sans une concertation avec les intéressés. Et particulièrement ceux qui sont les sacrifiés de par cette extension.
Voilà, et ça, on est au cœur du problème, c'est de pouvoir justement discuter, dialoguer avec ceux qui sont directement intéressés par cette extension du camp militaire. Henri Ramade, donc, à l'instant.
Et ce que fait Ramade, c'est très important, c'est qu'il, avec l'association, ils vont produire un document.
Un livre blanc.
Un livre blanc. Ouais. Alors, on est dans le grand moment des livres noirs. Hein, ouais. Les livres noirs de la police.
Mais eux, c'est leur livre blanc.
Eux, c'est leur livre blanc.
Et c'est leur arme politique.
Oui, c'est aussi un des, encore une fois, un des intérêts de cette lutte. C'est cette capacité à produire un savoir sur leur quotidien. C'est-à-dire, c'est le livre blanc, c'est aussi combien de fermes sont équipées en eau, combien de fermes sont... qu'est-ce qu'il y a, combien de brebis...
C'est très documenté. Hein.
C'est très, très documenté. Et c'est une des choses qui, je crois, fait partie de l'héritage du Larzac. C'est-à-dire, documenter les luttes, c'est une arme. Hein. Act Up disait toujours « Knowledge is a weapon ». Le savoir est une arme.
Ouais. Et donc, on va voir aussi comment la lutte va inventer ses formes et ses modes d'action. Est-ce que ça va changer dans le rapport de force? On en parle dans un instant avec vous, Philippe Artière. On évoque le Larzac cet après-midi dans la Terre au Carré. Et on attend vos messages, voire peut-être vos témoignages sur la page de l'émission et vos notes vocales sur l'appli Radio France.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Le Larzac n'est pas un désert, il est traversé en plein milieu par une bande de terre labourable, très fertile, où les céréales rendent de jusqu'à 50 hectares à l'hectare, on suit le meilleur rendement français.
Et juste à cet endroit-là, où on applique ce qui est préconisé et ce qui doit bien marcher, c'est à cet endroit-là qu'on choisit pour faire un camp militaire.
Je ne vois pas pourquoi Debré prépare au Larzac la guerre de 1940.
1972, une archive de l'ORTF avec donc des paysans opposés à l'extension du camp militaire sur le plateau du Larzac. Philippe Artière, vous qui êtes historien, directeur de recherche au CNRS, et l'auteur d'un livre, Le peuple du Larzac, aux éditions de La Découverte, dans lequel vous racontez alors, la grande histoire, très très longue et grande histoire du Larzac. Hein. Et votre histoire, elle ne commence pas dans les années 70. Hein.
Non, elle commence à la formation géologique.
Ouais. Pourquoi d'ailleurs vous avez choisi ce parti pris?
Parce qu'il me
semblait qu'est-ce qu'il raconte du Larzac?
Comment ce lieu frontière, a été un lieu où on a inventé sans cesse des formes d'habiter. Mmh. Et c'est ça qui m'a fasciné. Plus j'avançais d'ailleurs dans cette histoire, et en fait la lutte et la manière dont les paysans s'unissent à travers un serment en 72, eh bien ça... C'est un épisode d'une histoire d'une histoire communautaire,
ouais.
Tout à fait extraordinaire dans un lieu encore une fois qui est un lieu où il y a les potiers de la Groix-Fezenque, par exemple. Les potiers de la Groix-Fezenque, c'est cette poterie gallo-romaine qu'on peut admirer à la fois au musée de Millau, mais aussi à Saint-Germain-en-Laye. Et dans un certain nombre de lieux, et qui a été diffusé dans toute l'Europe. C'est aussi le lieu des Templiers. Alors, je dirais, aujourd'hui, ce n'est plus que le lieu des Templiers, mmh. puisque dans la mémoire du Larzac, si on est sorti de la 75 et qu'on va à Sainte-Eulalie, on verra essentiellement des boucliers avec des croix de croisée, et pas tellement les brebis
de la lutte. Hein.
De la lutte.
Ouais.
Mais il y a cette histoire-là.
C'est ça.
Et il y a beaucoup d'autres histoires. Il y a une communauté de femmes aussi, où il y a la première manière d'écrire la langue celte qui a été faite par Michel Lejeune, qui était un linguiste. On a trouvé dans une tombe cette plaquette. Donc il y a plein de choses.
Ouais, des c'est histoires de riche. Crânes, de sorcières, de croisées, vous l'avez dit, de paysans, de prisonniers, de soldats, d'ouvrières, de militants, de touristes et de brebis, hein,
oui.
quand même.
Et de prisonniers, c'est important parce que c'est quand même le lieu où, pendant la guerre d'Algérie, encore la guerre d'Algérie, c'est peut-être ce lien avec le monde, hein. On a l'impression que c'est isolé, mais le monde ne cesse de rentrer sur le Larzac, il ne cesse de monter sur le Larzac. Et là, il y a des prisonniers du FLN qui sont dans un camp de concentration, dans le camp.
Alors revenons à notre lutte hein, dans les années 70, Philippe Artière. Comment justement elle s'est construite, cette lutte? Au tout début, est-ce qu'il y a eu des gestes fondateurs qui ont rendu la cause visible et lisible également, de façon à toucher autant de personnes? Comment ça a fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné?
Alors ce qui a fonctionné d'abord, c'est le fait que 103 paysans se sont rassemblés ensemble et ont fait le serment de ne pas vendre leurs terres.
Le serment des 103.
C'est le serment des 103. Ouais. Ils ont même planté des arbres. le long de la Nationale 9, qu'on peut voir encore, hein, des pins qui sont là et qui témoignent dans le paysage de ce serment. Et puis, l'autre élément peut-être très fort qui marche, c'est là encore quelque chose qui vient d'ailleurs, des façons de faire qui viennent d'ailleurs, qui viennent des comités Vietnam. Les comités Vietnam pendant la guerre du Vietnam, qui est contemporaine, hein, dans toute la France et dans le monde entier, il y a des comités de soutien au peuple héroïque vietnamien. Et les militants qui peu à peu s'agrègent aux paysans décident dans toute la France de créer des comités avec une feuille d'information, Information Larzac, qui est diffusée où on donne plein de nouvelles tout le temps. C'est-à-dire qu'on relie ce plateau, ces paysans, ces 103 paysans au reste de la France, bien avant Internet, bien avant les radios libres.
Ça fait réseau.
Ça fait réseau, ça c'est aussi un moment où dans l'imaginaire français, la campagne, le monde rural n'est pas si loin. Il y a une génération, ouais, voire deux. Donc tout le monde connaît des paysans, tout le monde connaît des agriculteurs, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Nous ne sommes plus des enfants ou des petits-enfants d'agriculteurs, ou très peu. Et ça, c'est quelque chose qui va marcher très fortement quand les paysans du Larzac, autre geste très fort, décident de monter à la capitale.
Ouais. Alors il y a eu Rodez, ouais, et il y a eu la capitale. Il y a eu Rodez avec les tracteurs, ouais, en 72, 14 juillet 72, et puis ensuite l'idée d'aller à Paris.
Alors Rodez, comme on dit, en sud d'Aveyron, hein, c'est la préfecture. Millau est sa sous-préfecture. Donc on va déjà, et Millau, enfin le Larzac et Rodez, c'est loin, et il y a une distance même culturelle, ouais, forte. Donc on va là pour faire pression sur la préfecture, et c'est à ce moment-là que les paysans menacent d'aller à Paris. Enfin, ils disent, on va monter à Paris.
C'est ça.
Et là, ils montent en tracteur.
Ouais.
Ils vont monter trois fois.
Et les images ont marqué. Là, ça va faire mouche, parce qu'on monte avec les tracteurs, on monte aussi avec les brebis. On rappelle qu'il y a une histoire de Roquefort quand même dans l'histoire. Donc on monte en masse. Comment les Parisiens vont vivre ça justement à l'époque ?
Alors, on monte effectivement en tracteur, c'est une des premières, enfin la première manifestation paysanne en tracteur. Aujourd'hui, ouais, on a l'habitude de.
Ouais, ouais.
C'est même un peu un symbole. Attention, les tracteurs vont envahir Paris, vont bloquer Paris. Hein, donc. Ils montent en 73 en tracteur, avec les brebis. Alors les brebis, ils les ont déjà utilisées, ou ils les utiliseront plusieurs fois, notamment, un truc génial, ils envahissent, ils mettent un troupeau de brebis dans le tribunal de Millau. Donc imaginez les allées, enfin, vous voyez un amphi, un amphi d'université, vous mettez des brebis dedans.
Ouais.
Un tribunal, tout le monde n'est pas allé dans un tribunal, mais il faut, ouais, imaginer que que ça ressemble à peu près à ça, à des bancs comme ça, et les brebis, elles se... Et puis, le geste qui fait la une de François, qui est de photos très fortes, c'est un matin, les Parisiens se réveille, mais c'est pas une opération du ministère de l'Agriculture. Hein. Se réveille avec, sur le Champ de Mars, sachant que cet arrondissement-là, à l'époque, il est encore plus qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire.
Un arrondissement de ministère, en plus.
Un arrondissement de ministère,
c'est là où il pouvoir,
d'ambassade.
Hein. C'est ça.
Et là, paf, des brebis,
sous
avec
la
marqué
tour Eiffel.
Larzac.
C'est ça.
Avec des panneaux marqués Larzac. Et c'est un truc, ouais, très fort, parce que c'est des formes aussi qui rejoignent. Et on peut comme ça faire une histoire culturelle. Ça rejoint des formes, je dirais, de performance
qu'on avec peut voir beaucoup dans de créativité. C'est, ouais, ça. Il y a de l'imagination, ouais, il y a de la créativité, il y a de l'humour aussi dans les slogans. Faites la bourre, pas la guerre. Des moutons, pas des canons. Donc ça joue un rôle aussi, hein, dans le conflit qui dure quand même 10 ans. Hein, il faut le rappeler. Donc il y a ces mots qui fonctionnent très bien. Et quand même. Comment, Philippe Artial, les paysans arrivent à gérer les divergences internes? Parce qu'il y en a quand même. Hein. Il ne faut pas imaginer que le mouvement, comme ça, il se déploie aussi facilement. Il y a des divergences religieuses, politiques, stratégiques, mais ça n'explose pas. Qu'est-ce qui fait ciment, en fait, dans la lutte du Larzac, hein?
Alors, ce qui fait vraiment ciment, c'est une activité. Une activité qui a été reconnue par l'UNESCO, puisque maintenant les causes sont... patrimoine mondial, dont le Larzac, c'est le fait de, d'élever des brebis pour faire du lait, mais aussi pour faire de la peau, hein, puisque par principe, les brebis ne font pas que des brebis, elles font aussi des petits agneaux, et ces agneaux, on les tue, on les mange à Pâques, et là, il y a une industrie gantière très forte à Millau, mais qui est en chute libre à ce moment-là.
Mais ça pacifie les relations en interne ?
Non, ça pacifie pas les relations, mais ça crée aussi des rapports entre les gens du plateau et les gens à Millau.
Ouais.
Il y a comme ça ce qu'on appelait un bloc qui se crée entre les paysans et des ouvrières de pantalons qui sont en grève tout au début. Mais après, il y a les militants de LIP, de l'horlogerie LIP à Besançon, qui viennent sur le plateau et qui développent ces fameuses pratiques d'autogestion. Alors,
mais est-ce que c'est pas comme la non-violence qui va faire ciment dans Larzac et qui va permettre à toutes les tactiques d'aller jusqu'au bout, au fond ?
Alors, c'est la non-violence, mais la non-violence, elle est initiée en particulier c'était déjà présent au moment de la contestation de l'existence de ces camps de concentration, pour les Algériens, puisque c'est Lanza del Vasto.
Ouais. Là, c'est les années 50
Non, c'est en 60.
Hein. 60.
Lanza del Vasto, qui s'est installé, qui était une drôle de figure, hein, qui est un peu un gourou à la fois catholique, mais qui a sa propre communauté, qui s'est installé au pied du plateau, monte pour faire un jeûne. Mmh. Et il fait un jeûne contre ce camp d'Algériens.
Donc ça précède la lutte.
Ça précède. Et là, les paysans, quand ensuite ils remontent en 72, en Pâques 72, avec les évêques, parce que ce qu'on n'a pas suffisamment dit, c'est que le Larzac, c'est une terre catholique.
Oui, c'est pour ça que je parlais de divergence religieuse aussi.
Oui,
hein.
Parce que c'est juste à côté, il y a les Cévennes. Il y a les Huguenots. Millau a été capitale du protestantisme, mais après, ils ont été chassés. Et les protestants sont plutôt Cévennes, Auvigan et la vallée française. Mais il y a cette jonction avec aussi ce qu'on a oublié, les Jacques, hein, jeunesse agricole chrétienne.
Chrétienne, ouais.
Et c'est Jacques, pas mal de gamins d'agriculteurs. Vieux agriculteurs sont aux Jacques. Mmh. C'est eux qui apportent aussi de la modernité.
Allez, on se retrouve dans un instant, Philippe Artière, pour la suite et la fin de cette histoire, car il y a une fin quand même. Et n'oubliez pas vos messages et vos réactions sur la page de La Terre au Carré. On parle du Larzac aujourd'hui.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Le Larzac n'a pas changé. Son vent, ses moutons et ses bergers sont toujours là, tranquilles, plus tranquilles même. Car en lutte depuis plus de 10 ans, les paysans du Larzac ont retenu une chose de l'élection de François Mitterrand, la promesse que leurs terres leur seront rendues et qu'on ne leur en prendra pas d'autres.
La belle dîmée, bien sûr, ça a été une journée pour nous d'un éclat tellement que le lendemain, déjà, on disait, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas possible qu'une affaire comme ça soit arrêtée si vite, quoi, enfin.
La lutte n'est jamais finie, si c'est pas pour ça, c'est pour autre chose, c'est toujours une lutte dans la vie, il faut toujours lutter pour quelque chose.
Ça a été long, mais ça s'est arrêté vite, 10 mai 1981, et ensuite Conseil des ministres du 3 juin, l'abandon de l'extension donc, par le nouveau pouvoir, François Mitterrand arrive à l'Élysée. Victoire totale ou victoire partielle selon vous, Philippe Artière ? Est-ce que c'est vraiment la fin de la lutte là, à ce moment-là ?
Non, je crois pas. Je crois que vraiment la fin de la lutte, c'est ce qu'inventent 4 hommes dans le cabinet de Michel Rocard. Encore la guerre d'Algérie, hein, Michel Rocard.
Qu'est-ce qu'ils inventent ?
Ils inventent un dispositif singulier qui consiste d'abord, ces 4 hommes, c'est Guy Tarlier, José Bové et 2 avocats, De Félis et Roux. Ces 4 hommes, ils inventent une manière de partager l'acquis de cette lutte, c'est-à-dire les terres qui ont été prises par l'armée,
oui.
Elles vont être confiées au ministère de l'Agriculture, puisqu'elles appartiennent au domaine, et ce même ministère de l'Agriculture va confier la forme d'un beau en phéotique et ça à l'association de sauvegarde du Larzac et de son environnement. Et c'est l'association qui va décider, pas seulement qui occupe les fermes, ce qu'on y fait, mais aussi au sein de ces assemblées, qui occupe telle maison. Parce qu'on pense pas seulement l'agriculture, on pense la vie sur le Causse. Et c'est peut-être ça aussi qui est très intéressant pendant ces 10 ans où il y a des moments très durs, où il y a des moments où ça ne marche pas.
Est-ce que ça aurait pu capoter, justement?
Bien sûr.
Est-ce que la lutte aurait pu complètement...
Ah oui, je crois qu'il faut quand même en finir échouer. Totalement avec ce mythe que la lutte, d'abord, elle dure 10 ans.
Oui, c'est long.
Il y a quand même 74 Mitterrand qui est battu. Mitterrand va sur le Causse, ça se passe pas très bien, mais il est quand même là. Il est emmené par Delanoë, qui à l'époque avait Véronée. Ces 10 ans, c'est dur, 10 ans, quand il faut continuer à exploiter, quand on occupe des fermes illégalement, sans eau, sans électricité, comme Beauvais, avec sa femme et leur enfant, comme plein d'autres. C'est dur. Par ailleurs, comme on le sait, les luttes, elles peuvent être. Il y en a d'autres qui viennent. Hein. Après, il y a toutes les luttes autour du nucléaire. Donc là, le Larzac, il s'associe. Il faut maintenir une tension et une tension sur le pouvoir. Alors Mitterrand fait cette promesse, mais c'est pas gagné parce que Charles Hernu, il était pas très chaud. Hein, il ne faut pas non plus... Il faut se souvenir de ces premiers mois de la gauche au pouvoir.
Sous
Mitterrand. Ouais. Tout ça n'est pas simple. Hein,
Philippe Artière, on n'a pas le temps malheureusement de le développer, mais il y a eu les groupes fonciers agricoles qui ont joué un rôle majeur justement dans les dispositifs qui ont permis aussi d'asseoir une force, une puissance sur cette terre de lutte. Hein.
C'est-à-dire que ces groupes ont permis, enfin ce dispositif, hein, le GFA, hein, le groupe foncier agricole, a permis à plein de Français de prendre des parts, non pas d'acheter un bout de l'Arzac pour eux, mais de prendre des parts dans cet ensemble qui était progressivement racheté. Parce que la lutte, elle a été aussi foncière. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agissait, chaque fois qu'il y avait un paysan qui vendait, qui n'était pas des 103, il fallait acheter. Et donc, il y a comme ça la célèbre place que le canard enchaîné a fait comme ça, a acheté un bout de... Voilà, a eu l'impression d'acheter un bout de l'Arzac. Ça, c'est très important parce que c'est encore l'enjeu, et ça sera l'enjeu majeur de ce qui va se passer plus tard à Notre-Dame-des-Landes.
Ouais.
Valls dira... tout sauf le Larzac.
Ouais. Donc c'est vraiment, il y a un héritage aussi direct du Larzac.
Il y a un héritage massif aussi parce que d'abord les paysans, même s'ils sont soutenus par des groupes politiques, décident en créant avec José Bové et d'autres la Confédération. La Confédération paysanne, c'est quand même là qu'elle naît, sur ce territoire.
Allez, on va passer aux questions parce qu'elles sont nombreuses, ça nous permettra de continuer cette histoire de lutte dans le Larzac. Et on va commencer, Philippe Artière, avec un témoignage de Marie qui vient de nous laisser une note vocale sur l'appli Radio France.
C'est Marie, très émouvant aujourd'hui d'entendre parler du Larzac. C'était notre combat dans notre jeunesse dans les années 70. J'ai participé en 73 à la marche sur Paris avec les tracteurs. Voilà, un grand combat à côté de tous les paysans. C'était très émouvant. Merci pour ce reportage.
Voilà, et cette interview donc de notre invité historien Philippe Artière. D'ailleurs, je vais compléter les propos de Marie avec ce message de Pierre qui se souvient d'une manif de 1977 avec son père, objecteur de conscience, et qui a symboliquement pénétré dans le camp militaire, s'y est naturellement fait arrêter. Émission si utile, dit-il, pour les plus jeunes, pour montrer le pouvoir de la mobilisation civile. Et il fait fait aussi allusion au démontage du McDo de Millau en 1999, Philippe Artière.
Oui, ça c'est bien plus tard, mais c'est un des gestes aussi, enfin un des héritages, hein, ouais. En l'occurrence avec les mêmes, hein, un certain nombre, dont José Bové, qui est vraiment, à partir de 1975, une figure, et c'est ce démontage. Alors, chacun voit ce que c'est qu'un McDonald's, c'est-à-dire une maison, une architecture, ouais, qui est une architecture, je dirais, mondialisée. Mmh. Et ces paysans du Larzac, ils disent non, nous on veut pas ça. Nous c'est des fermes avec des voûtes romanes. Et donc ils démontent ce McDo, ils le démontent il est le long de la Nationale 9, et c'est l'endroit où il y a des embouteillages. Et ouais, qu'est-ce que font les paysans? Ils donnent des tartines de Roquefort. C'est-à-dire que c'est en même temps un truc sur la malbouffe.
Ouais.
C'est-à-dire c'est en même temps dire non, on veut pas de ça.
Simon nous dit, j'écoute votre émission, je trouve étonnant qu'une terre de liberté comme le Larzac soit devenue un lieu qui vit surtout du tourisme. Est-ce que d'ailleurs, aujourd'hui, dans le modèle touristique, on fait référence à ce passé de lutte du Larzac ou pas du tout? Parce que vous parliez tout à l'heure des Templiers, par exemple. On en parle plus que de la lutte et de José Bové ou pas?
C'est le fameux enjeu aujourd'hui de tous ces spectacles historiques. À Sainte-Eulalie, il y a un spectacle sur les Templiers. Il n'y a pas un spectacle. Il y a le Théâtre du Soleil qui est pourtant venu sur le...
Ariane Mouchkine,
qui est monté sur le Causse. Hein, ça fait partie des...
Ouais.
Et un certain nombre d'artistes. Malheureusement, il n'y a pas, il n'y a pas de fresque de ce qui s'est passé à ce moment-là comme terre de résistance. Il faut le noter. Le tourisme aujourd'hui, il est assez paradoxal parce qu'on va... On va sur le Larzac pour vivre le désert en pensant que le désert est nature.
Ouais.
Et en fait, le désert n'est pas naturel. Le désert est né de la désertification liée à l'exploitation à l'élevage. Hein. Ce sont les chèvres et les moutons qui ont mangé les arbres.
Je termine avec le message de Daniel. L'exemple de gestion des terres du Larzac devrait inspirer d'autres régions pour permettre à des jeunes de s'installer en agriculture. D'ailleurs, le Larzac est une terre où de nombreux jeunes vivent actuellement sans s'être endettés à vie auprès des banques. Merci beaucoup, Philippe Artière.
Merci à vous.
D'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré pour nous parler du Larzac. Je renvoie sur Le Peuple du Larzac, c'est aux éditions de la Découverte, c'est sorti en poche. Et puis vous avez un ouvrage qui paraît là, son titre...
Le village du docteur Mabi, c'est chez Manuela Édition.
Voilà, et c'est pas autour du Larzac, c'est une autre histoire.
Mais c'est autour de cette question de l'espace et de comment on habite les espaces.
Merci beaucoup à vous.